France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le 3 juin dernier, l'Assemblée nationale votait la mise en place de réparations pour les rapatriés d'Indochine, ces personnes menacées après la défaite française de Dien Bien Phu en 1954. Amenés en France, rassemblés dans des centres d'accueil dans le Lot et dans l'Allier notamment, ils sont restés plusieurs décennies dans des logements précaires et sous étroite surveillance. Alors qui sont ces Français d'Indochine? Quelles ont été leurs conditions de vie en France au milieu du XXe siècle? Comment s'est transmise leur culture, leur mémoire? Entre attachement à leur origine et intégration en France. Pour en parler ce soir, une invitée, Paulette Wadblé. Vous êtes sociologue, coordinatrice de l'espace muséal du CAFI de Noyant-d'Allier, le centre d'accueil des Français d'Indochine. Merci d'être venue ce soir dans Question du soir.
La faute, c'est d'avoir rapatrié des familles et de les avoir souvent abandonnés. Alors c'est moins vrai effectivement à Noyant que ça ne l'a été à Sainte-Livrade ou à Bias, où les familles ont été tenues pendant plus d'un demi-siècle dans des baraquements, avec des restrictions qui étaient des restrictions obligatoires, pas de signe extérieur de richesse possible, pas de télévision, pas de voiture. Les baraquements étaient tenus à l'écart du village, contrairement à ce que vous avez vécu ici. Et avec cette humiliation supplémentaire, quand la guerre d'Algérie s'est interrompue, les CARI, les centres d'accueil des rapatriés d'Indochine, se sont curieusement transformés en CAFI, centre d'accueil pour les Français d'Indochine, et donc n'avaient droit à aucun accompagnement spécifique, comme ce fut le cas pour les rapatriés d'Algérie.
La voix du député socialiste Olivier Faure à l'origine de la proposition de loi portant reconnaissance de la nation envers les rapatriés d'Indochine. Alors ce texte, Paulette Wadblé, prévoit une reconnaissance morale et matérielle des souffrances endurées par les rapatriés de l'ancienne colonie française. Commençons par cette reconnaissance morale. Qu'est-ce que cela signifie ?
Bonsoir, ça signifie que après des décennies d'oubli, de méconnaissance à la fois de la part de l'administration, de la part des politiques, de la part de la population, les enfants, les descendants des premiers arrivants souhaitaient voir reconnaître leur histoire, voir apparaître dans notre histoire et être avoir une certaine reconnaissance de leur souffrance. Pour un certain nombre, c'est vraiment un parcours assez difficile entre le départ des familles de Saïgon en général et l'arrivée en France dans des cadres qui n'étaient absolument pas ceux qu'ils avaient connus ni socialement ni culturellement. Donc c'est une volonté de dire on existe et ben regardez-nous et puis ben aidez-nous parce que personne parmi toute cette population n'a besoin d'aide, mais c'est une volonté qu'on prenne en compte leur histoire. Qui est rarement prise en compte jusqu'à aujourd'hui. Juste pour vous dire, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui ne savait même pas quels étaient les pays de l'Indochine, qui ne savait pas que ça avait été une colonie française.
Après la reconnaissance morale, il y a la reconnaissance financière. Combien de personnes seront concernées par cette proposition de loi et quels sont les montants qui ont été évoqués?
Alors, ça reste encore un peu flou. Parce que c'est très difficile de comptabiliser, de savoir qui va être bénéficiaire de cette réparation. Il y a eu une réunion, il n'y a pas très longtemps, au ministère des Armées pour un peu aborder ce point-là. Et c'est flou, ça peut être 300 personnes. Toujours parmi les descendants, parce que effectivement les parents sont aujourd'hui décédés. Entre 300 personnes à peut-être 1500, mais pour l'instant, ça n'est pas décidé. Le montant, lui, n'est pas non plus décidé, mais il est possible, et là, moi, c'est sous condition, hein, je ne peux pas m'avancer plus que ça, que ce soit un petit peu repris sur ce qui avait été octroyé aux familles des harkis, c'est-à-dire peut-être aux alentours de 8 000 euros par personne, mais rien n'est encore bien défini. Comment mais à savoir que la reconnaissance matérielle, elle est importante pour certaines personnes, mais elle est surtout moins importante que la reconnaissance morale.
Comment ce vote est-il justement perçu par la communauté ? Communauté composée, vous l'avez dit, essentiellement des descendants. Est-ce que cette décision a été prise, j'allais dire, comme une nouvelle positive, mais largement positive ?
Alors là, c'est un peu particulier parce que depuis, on va dire, une dizaine, peut-être une quinzaine d'années, il y a des petits groupes de personnes dans le cadre associatif qui travaillent à la reconnaissance de leur histoire et qui ont plus récemment demandé aussi une réparation sur le plan matériel, financier. Donc ce sont des petits groupes associatifs et qui luttent et qui n'étaient pas forcément bien entendus par le reste des personnes de cette origine. Et là, avec le vote de la proposition de loi, eh bien ceux qui sont un peu en retrait se sont réveillés et encouragent et remercient, félicitent, ils reçoivent des compliments, des appels téléphoniques, des mails. Ils reconnaissent le travail de ces petits groupes et s'inscrivent tout à fait dans cette ligne-là.
J'aimerais vous faire entendre un témoignage émouvant, celui de Joséphine qui raconte son arrivée en France en 1970. Elle fait partie de ce groupe que l'on appelle donc les rapatriés d'Indochine.
Un souvenir assez désagréable. Parce que lorsque j'étais encore au Vietnam, en me parlant de la France, on disait qu'en France, il y a du sable blanc, des pommiers tout au long de la route, avec de beaux fruits. Enfin, on me parlait de la France comme un paradis. Et j'y croyais. Finalement, lorsque je suis arrivée, c'était en plein hiver, avec de la neige. Et puis la maison avait l'air, c'était catastrophique. C'était très triste. Lorsqu'on arrive ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Deux mains vides, c'est tout.
On parlait de la France comme un paradis, disait Joséphine. Ces personnes ont vécu, Paulette Ouattblé, un véritable déclassement en partant d'Indochine, en arrivant en France.
Oui, effectivement. Là, c'est un témoignage, vous avez dit, qui date de 1970, donc c'est une arrivée tardif, je suis un petit peu étonnée d'ailleurs, parce qu'en principe, les rapatriés n'arrivaient plus à cette date-là, mais bon. Mais dès 1955, les premiers arrivés ont eu exactement la même attitude, c'est-à-dire s'attendant à trouver en France un accueil à la fois de la population, un accueil, un hébergement, enfin une attention bien plus importante que ce qu'ils ont trouvé et qui était largement en deçà de ce qu'ils espéraient. Effectivement, pour eux, la France, c'était le paradis. C'était le paradis où ils pensaient qu'il y avait du muguet partout. Puis c'était des gens des villes, des gens des villes qui arrivaient dans des centres d'accueil précaires et à la campagne, dans des endroits culturellement et géographiquement, climatiquement, qui étaient à leur opposé de vie habituelle.
Alors on l'a dit, ces personnes ont été rapatriées. On reviendra d'ailleurs sur le terme de rapatriement, mais ces personnes ont été rapatriées en France parce qu'elles étaient menacées après la défaite française de Dien Bien Phu en 1954. Qui composait ce groupe ? Qui étaient justement ces rapatriés ?
Alors c'est un groupe très hétérogène, mais qui est rassemblé sous une même étiquette qui est celle de la nationalité française. Les rapatriés d'Indochine sont d'abord des Français. Ensuite, ils sont culturellement, ethniquement, on peut dire, beaucoup de personnes issues d'unions mixtes, soit entre fonctionnaires ou policiers ou militaires français ou des armées des colonies avec des femmes vietnamiennes, cambodgiennes, mais beaucoup vietnamiennes. soient eux-mêmes des enfants issus de ces mariages mixtes et qui ont eux-mêmes épousé des Vietnamiennes. Donc, et puis également un nombre un peu moins important, mais quand même présent, de personnes venant de Pondichéry qui étaient venues au Vietnam pour s'installer, faire du commerce, travailler, et puis qui ont eux-mêmes rencontré des femmes. Souvent, c'était les femmes vietnamiennes. Donc, il y a des mariages, des unions entre Indiens et Vietnamiens, entre Vietnamiens et Français, entre Européens, je veux dire, entre Vietnamiennes surtout, et militaires de l'armée venant des colonies françaises. Donc, c'est une population qui est très diversifiée. Hein, à la fois, c'est pas que des Vietnamiens, ce sont pas que des Eurasiens, mais vous voyez, il y a ce mélange de populations qui sont rassemblées sous l'étiquette française, nationalité française, ayant travaillé, vivant dans le cadre du colonialisme français, hein, et puis qui ont pris parti pour ce parti-là.
Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce terme-là de rapatrier qui laisse entendre que ces personnes ont vécu un retour à la patrie, un retour vers la patrie? Est-ce qu'il vous semble juste, bien employé?
Ah ben non, évidemment, pour la grande majorité de ces personnes, de ces familles, ce sont des familles qui sont venues. La France était un pays très éloigné, un paradis éloigné, comme ils disent, mais personne n'est jamais revenu en France. C'était leur premier voyage en France. Ils rentraient dans la patrie, mais ils n'étaient jamais venus physiquement dans ce pays. Donc, ils sont rapatriés au sens théorique du terme, mais ils ne sont pas revenus en France.
Pourquoi décide-t-on de les placer, puisque c'est le terme juste en l'occurrence, dans le Lot et dans l'Allier? Pourquoi ces régions, ces départements en l'occurrence en particulier?
Alors, tous les rapatriés d'Indochine, qu'ils soient eurasiens ou européens, etc., ne sont pas passés par des centres d'accueil. Les personnes les familles qui avaient moins de 3 enfants et qui avaient les moyens de se débrouiller de toute façon, ou qui avaient de la famille en France, parce que ça arrivait aussi, étaient incitées et à rejoindre tout de suite le travail, le logement dans la société française, sans passer par un centre d'accueil. Ont été accueillis dans les centres d'accueil les familles souvent avec beaucoup d'enfants qui n'avaient en France aucune véritable attache et qui se retrouvaient là sans rien, parce que beaucoup de ces familles n'ont pas eu le temps de prendre des objets, des choses. Il y a quelques objets qui ont été emportés, mais un bon nombre de familles sont parties quand même en catastrophe. Donc, il a fallu leur trouver des lieux d'hébergement en attendant qu'ils s'intègrent dans la société française. Et l'État français a cherché des lieux où les héberger. Et ils ont été hébergés collectivement dans un centre qui s'appelle le Vigan, dans un autre qui est une ancienne caserne dans les baraquements d'un ancien camp militaire dans le Lot, à Sainte-Livrade-sur-Lot, et puis dans ces anciens corons, ces maisons de mineurs qui avaient été données, enfin pour une somme ridicule à l'État en 54, qui étaient inoccupées depuis 43. C'était une manière de les loger rapidement avant de procéder à leur intégration en France.
J'aimerais vous faire entendre la voix cette fois-ci de Karine. C'est une petite fille de rapatriée. Elle s'exprimait sur LCI en 2014.
Elles sont tellement pudiques. Elles ont été toutes pudiques, mais même nos parents sont pudiques. C'est-à-dire qu'ils ont rien réclamé du tout. Ils se sont entraidés entre eux. Et puis il y avait une certaine politique ici, des grands-mères qui aidaient d'autres grands-mères. C'est pas que personne n'a réclamé, c'est que personne n'a entendu. Et personne n'a voulu voir qu'elles étaient dans des baraquements dangereux pour elles. Il y avait des couvertures en évérite. C'était bourré d'amiante. Enfin, tout le monde en avait rien à foutre. tant qu'elles disaient rien. Et puis elles se contentaient de ce qu'elles avaient parce que mais c'était toujours mieux que rien.
Baraquement dangereux, amiante, Paulette Wadblick, quelles étaient justement les conditions de vie dans ces centres, je mets des guillemets, d'accueil ?
Alors ici, je pense qu'il est spécialement question de Sainte-Livrade, puisque les conditions d'accueil à Noyant dans l'Allier n'étaient pas les mêmes, c'était très différent. Et Sainte-Livrade, faut aussi dire qu'y ont été transférées à partir de 62 des familles qui étaient considérées comme difficilement intégrables, socialement incasables, enfin dans ce camp militaire. À l'origine, il n'était pas prévu que les gens y restent aussi longtemps, mais c'est à partir de 62-63 que ce camp de Sainte-Livrade, ces baraquements sont devenus un centre permanent. Avec toujours l'idée quand même d'essayer de faire partir les gens le plus rapidement possible. Alors effectivement, les conditions d'habitat n'étaient pas des meilleures, loin de là. Hein. Il y avait de l'électricité, il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas du tout de confort sanitaire. Il y avait des gros problèmes de parasites en été. Et les gens sortaient parce qu'on devait désinsectiser, enfin désinfecter les locaux et les choses se sont engluées comme ça, surtout à Sainte-Livrade. Il faut faire un peu la différence entre Sainte-Livrade et Noyant dans l'Allier. Noyant, c'était pas non plus beaucoup mieux, mais c'était quand même moins dur qu'à Sainte-Livrade.
Tous les témoignages racontent la surveillance forte, importante de l'administration, des administrations. Comment expliquer justement que cette surveillance soit si forte ? Pourquoi fallait-il surveiller tout simplement ces gens ?
Alors, on surveillait parce que ces personnes, ces familles étaient considérées pas vraiment comme des citoyens ordinaires, ou du point de vue de l'État, mais comme des ayants droit. C'est-à-dire acceptés dans ces hébergements avec des conditions de réception de charbon, par exemple, ou d'allocation, ou de choses comme ça, à condition de respecter un certain mode de vie et un certain règlement qui a été mis en place en 1959. Et l'idée, c'était de ne pas laisser les gens s'installer confortablement au risque de les voir rester là à demeure. L'idée était quand même de les faire sortir le plus rapidement possible. Et puis quand vous avez un nombre de personnes comme ça rassemblées, il y a toujours une crainte. On ne sait pas ce qu'ils se disent, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'ils font ensemble. Donc il y a eu un règlement qui a été instauré, qui était particulièrement rigide, hein, pour, quelque part, toute transgression de ce règlement amener à l'expulsion des familles, hein, et la précarisation, pour ce qui est de Sainte-Livrade, en tout cas, pas pour Noyant, puisque les gens ont pu acheter les maisons à partir de 65, mais à Noyant, je sépare bien les deux, Noyant et Sainte-Livrade. À Sainte-Livrade, il n'était pas question que les gens puissent accéder à leur logement. Et effectivement, il y avait une administration qui était particulièrement rigide, puisque c'était un ancien militaire colonial. Ils avaient aussi avec eux, au tout début, un prêtre missionnaire. Et puis, on se chargeait l'un ou l'autre de surveiller que la population fasse bien ce qu'il faut pour s'intégrer, que ce soit sur le plan social ou le plan religieux d'ailleurs.
Vous avez dit, Paulette Wadblé, que l'objectif quand même de l'État était de faire sortir ces gens, ces familles de ces centres d'accueil. Que fallait-il alors pour qu'ils puissent sortir effectivement ?
Alors on leur demandait, dès qu'ils avaient trouvé un travail, qu'on estimait qu'ils avaient les moyens de payer un loyer, eh bien, de quitter le statut d'ayant droit et de devenir un citoyen français quasi ordinaire. Et ce qui fait que quand ils avaient un travail, et qu'ils avaient ou une mobylette ou peut-être une voiture, certainement pas, mais dès qu'ils montraient posséder des objets qui semblaient à l'administration être relevés d'un confort amélioré de ce qui était connus comme étant de la richesse, entre guillemets, eh ben on leur demandait de partir. Hein. Donc, il fallait qu'ils trouvent un travail. Et pour cela, l'administration encourageait fortement les gens à travailler, notamment à noyant beaucoup d'hommes, parce qu'il y avait quand même des hommes, il y avait une majorité de femmes, mais il y avait quand même des hommes. Les hommes allaient travailler à l'extérieur. La région dans lesquelles ils ont été transférés, que ce soit dans le Lot ou bien dans l'Allier, n'étaient pas des bassins d'emploi très forts. Et beaucoup d'hommes sont allés travailler en région parisienne. Ils étaient incités à aller travailler en région parisienne, à aller travailler pour le Lot à Toulouse, à Bordeaux, et comme ça, quitter le centre.
Quand est-ce que cette histoire difficile s'est terminée ? Quand est-ce que ces centres ont été vidés ? Quand est-ce qu'ils ont été fermés ?
Alors, à Noyant, ils n'ont pas été vidés, puisque les gens qui ne sont pas partis à Sainte-Livrade, là, il y a eu aussi des transferts un petit peu forcés, et non accepté par certains, les familles un peu nombreuses ou dans laquelle il n'y avait pas un père suffisamment en forme pour travailler, ont été transférés à Sainte-Livrade, ce que les gens n'ont pas voulu. Donc ça s'est fait dans les années 60. Il y a eu beaucoup d'allées-venues. Hein. Et puis, ils sont allés certains à Sainte-Livrade, certains se sont débrouillés de leur propre chef. Et puis à Noyant, à partir de 64-65, il a été proposé aux familles d'acheter le coron dans lequel ils habitaient, la maison dans laquelle ils habitaient. Alors pour une somme qui nous paraît peu élevée aujourd'hui, mais c'est entre 3 000 et 3 500 francs de 1965-66, ce qui représentait pour certaines familles une somme non négligeable. Hein, certains se sont endettés et s'ils ne pouvaient pas acheter, ils payaient un loyer. Et donc, à partir de 65-66, l'administration s'est arrêtée à Noyant avec cette accession à la propriété. Ils sont rentrés dans le droit commun. À Sainte-Livrade, je vous ai dit, c'est pas du tout la même chose. Il y a eu une administration jusque dans les années 90. Bien que les baraquements militaires soient devenus propriété de la collectivité locale, de la mairie à partir de 81, pour une somme modique, l'administration a continué et puis jusque dans les années 90. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle date le dernier directeur est parti. Mmh. On dirait que c'était vers 96, 97, quelque chose comme ça.
L'extrait du podcast intitulé « Vietnam sur Lot » s'est signé Alix Douard. On entendra les voix de Jérémy, Alix et Chloé, des descendants de rapatriés.
C'est un endroit hyper mystique et spécial, ouais, exotique et spirituel et tout plein de trucs, avec une aura. Donc c'est ça qu'on est en train de perdre avec les logements sociaux. Ça devient tout lisse, c'est des gens d'extérieur qui viennent. Il y a des gens qui viennent habiter ici, on ne sait même pas qui ils sont.
Ce qu'on a tous perdu, je crois, avec la rénovation, c'est le sentiment de communauté, d'appartenance. La fin du CAFI, c'est la disparition de la mémoire, mais c'est aussi la destruction de nos racines à nous tous, les descendants. J'en ai parlé avec une de mes cousines du camp, Chloé. On a le même âge toutes les deux. Elle vivait en banlieue parisienne et revenait tous les étés pour voir sa grand-mère.
J'avais vraiment l'impression quand j'arrivais ici que je revenais un peu chez moi quelque part, ce qui était très bizarre parce que je suis française autant que vietnamienne. Mais ce côté de revenir au camp, c'était vraiment cette espèce de réenracinement. Et ça, c'est un truc qui est particulier parce qu'on a une double culture, on a une double identité. Et ici, c'était un peu comme la respiration aussi, de pouvoir exprimer cette partie vietnamienne que t'exprimes pas forcément quand t'es avec tes amis français et ta famille française ailleurs, quoi.
Comment s'est transmise, Paulette Ouattblé, cette mémoire, la mémoire transmise aux descendants des rapatriés ?
Alors, elle s'est transmise de façon quotidienne, notamment par l'alimentation. La langue, elle s'est un peu perdue, mais l'alimentation, c'est quelque chose de très fort, autant à Sainte-Livrade qu'à Noyant, par des valeurs qui sont très spécifiques à l'Asie du Sud-Est, au Vietnam notamment, c'est-à-dire un grand respect des parents. C'est vrai que tous les descendants qui ont aujourd'hui autour de 65-75 ans sont extrêmement reconnaissants au sacrifice qu'ont fait leurs mères et leur portent hommage régulièrement. Ça se transmet par les associations qui ont été mises en place dans le Lot et dans le Lot-et-Garonne, pardon, et dans l'Allier, qui perpétue. La première association, elle a même été mise en place en 1980 par un fils de rapatrié. Donc ça se transmet par ces associations qui ont voulu faire continuer de faire vivre ces valeurs pour que les enfants n'oublient pas d'où viennent leurs parents, leurs grands-parents. Mais... je voulais dire une chose, une toute petite chose, c'est que il y a du noir dans toute cette histoire, il y a du sombre, il y a du douloureux, mais il faut pas oublier que ce sont des gens qui ont toujours eu une énorme capacité de rebondir, et il y a aussi des moments extrêmement joyeux, extrêmement je sais pas comment
heureux expliquer.
Heureux, voilà, et que ces histoires de perte de communauté, faut quand même le remettre dans le contexte français, qui est une société jacobine où on accepte mal le communautarisme. Et c'était la crainte du communautarisme aussi. Hein,
merci beaucoup. C'était là. Paulette Touadblé, je vous prie de m'excuser, vous êtes à distance, mais merci de ces explications. Vous êtes sociologue, coordinatrice de l'espace muséal du CAFI de Noyant-d'Allier, le centre d'accueil des Français d'Indochine. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question du soir. France Culture.